On s'en va rejoindre immédiatement Patrice Saint-Pierre de la FADOC. Bonjour Patrice.
Bonjour Annick et bonne journée internationale de la radio.
Oui, bien merci beaucoup, merci. Ben toi aussi, maintenant tu es chroniqueur.
Oui, c'est
vrai. On travaille ensemble.
Évidemment. On souhaite une bonne journée.
Absolument. La semaine passée, c'était la Semaine nationale de prévention du suicide. Et on va revenir là-dessus parce que le suicide, ça n'arrive pas dans une semaine en particulier dans l'année. Donc, il faut faire de la prévention à l'année.
Oui, et la Semaine de prévention du suicide, c'est un rappel également. Que ça touche pas juste les jeunes clientèles. D'ailleurs, les statistiques le prouvent actuellement, les taux de suicide les plus élevés au Québec sont chez les hommes de 50 à 64 ans, selon des données de l'Institut national de la santé publique. Donc, ça démontre l'importance d'en parler et aussi d'avoir recours à des ressources qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Donc, ça a été pour nous une préoccupation. Je regardais dans nos archives pour constater qu'en 1991, déjà, on avait organisé un important colloque ici dans la région sur toute la question du suicide chez les aînés. Et je pense qu'il est important d'en parler et de démystifier cette situation-là parce que on a tendance également, Annick, à faire en sorte d'amoindrir les chiffres qu'on connaît par rapport au suicide parce que dans la plupart des cas, c'est des moyens doux qui vont être utilisés par les aînés pour mettre fin à leur jour. Souvent, c'est une consommation de médicaments volontaires qu'on va prendre pour mettre fin à des jours comparativement à souvent des moyens qui sont plus violents chez d'autres types de groupes d'âge. Et les coronaires en parlent régulièrement dans des rapports sur des décès. Des fois, ils sont appelés à enquêter. Ils disent, bon, ben on n'est pas capable pour nous d'établir la véritable cause. On sait qu'il y a une cause qui est due à de la médication, mais on ne peut pas dire si c'est une surconsommation involontaire ou volontaire de médicaments s'il n'y a pas de lettre qui a été mise pour indiquer là les intentions de la personne. Donc, tout ça pour mentionner que avant d'en arriver là, il y a des personnes qui se sentent seules. Ben il y a des ressources qui sont autour de vous. On passe notamment au centre de prévention du suicide. Il y a maintenant aussi des endroits où on peut même envoyer des textos pour avoir de l'aide. Puis il faut rappeler, hein, la FADOC, ça a 50 ans, ça a plus de 50 ans maintenant, mais on était mis là en place à l'époque pour briser l'isolement, l'insécurité, l'inutilité. Donc, on est un réseau qui favorise les contacts sociaux et souvent, les gens, ben ils ont besoin de ça pour meubler leur quotidien. Avant d'en arriver à des moyens drastiques, prenons d'autres moyens qui peuvent nous permettre de regagner un peu de goût à la vie.
Absolument. Puis on n'est pas tout seul, hein? Avant d'arriver justement à utiliser des moyens drastiques, il y a plusieurs personnes qui demandent de l'aide et qui en reçoivent de l'aide et puis qui s'en sortent. Puis quelques années après, ils voient la vie autrement. Même quelques mois après, ils voient la vie autrement. Fait que c'est important de demander de l'aide. Maintenant, j'étais contente pour vous autres puis pour nous autres aussi, là, parce que ça commence à faire les coûts dans les résidences pour personnes âgées. Vous demandiez des choses depuis très, très longtemps et puis vous avez été exaucés.
Oui, bien écoute, on a été entendus. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un pas qui a été fait la semaine... il y a déjà maintenant deux semaines, là, on en parlait justement, l'annonce a été faite durant notre chronique. La ministre Sonia Bélanger qui a annoncé 200 millions de dollars pour un programme d'aide pour les résidences, les RPA, pour les bénéficiaires, en fait les résidents des résidences de 30 personnes et moins. On sait qu'il y avait un projet pilote qui était mené dans 5 régions du Québec pour valider ce programme-là qui va être mis en place. C'est un programme, dans le fond, où on va aller couvrir la partie des services pour des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc, on va prendre une résidence fictive de 30 et moins. On a un parent qui est dans cette résidence-là. Toute la partie logement, chauffage, tout ça, va être payé par le résident, mais les services additionnels, l'aide au repas, la distribution des médicaments, etc., ça va devenir couvert à l'intérieur du programme gouvernemental, étant donné que la personne est en milieu d'hébergement qui nécessite des soins appropriés. Est-ce que ça va faire en sorte, bien, ça va diminuer la facture d'une façon qui est quand même importante.
Importante, vraiment.
Oui, parce que si on regarde, là, exemple, un coût moyen avant le programme, On parlait là, d'une facture qui pouvait inclure les services d'environ 5 778 $ par mois. Et là, si on enlève à ce moment-là, puis si on parle d'un coût moyen au Québec, là, si on regarde avec le nouveau programme, bien, on baisse de à peu près 2 200 $ par mois, donc à 3 613. Donc, ça va avoir un impact non négligeable. Puis, ça va avoir un impact qui va être aussi plus large que les résidences de 30 et moins, parce que le gouvernement vient d'une certaine manière donner des bornes, des balises par rapport à ce que peut représenter le coût d'un service. Prenons un exemple, Annick, la distribution des médicaments. Une résidence pourrait charger 50 $ par mois pour les résidents, tandis qu'une autre pourrait en charger 150. Donc,
c'est
à
vrai.
L'intérieur de ça, on vient normer, on vient donner des balises par rapport au coût d'un service. Et il est inévitable qu'à long terme, on risque d'avoir une incidence sur les prix, sur la négociation également des baux en résidence, puisque le gouvernement va avoir donné un modèle avec le programme qui est actuellement mis en place. Donc, 200 millions, ça peut représenter approximativement 20 000 $ par année pour une personne en résidence privée qui va avoir droit à ce service-là. Est-ce que c'est assez? Non, pour
non,
le contenu
non,
de l'ensemble
c'est
des
sûr.
services et du nombre de résidences.
Mm-hmm.
Mais est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Et surtout, ça va nous permettre également de garder en place des résidences, des petites résidences privées dont on a perdu, on en a parlé dans nos chroniques, on a perdu beaucoup de ces résidences-là, en fait 500 depuis la tragédie de l'Île Verte. Donc, et on a besoin de conserver ces milieux-là, qui sont des milieux plus de type familial que les aînés aiment énormément et qu'on retrouve aussi principalement dans le milieu rural.
Quand tu parles là, par mois de moyenne, là, 5 778 $ là, c'est des gens qui sont en sérieuse perte d'autonomie, ça?
C'est des gens qui sont partiellement à perte d'autonomie, parce que si on dit sérieusement à perte d'autonomie, là, on va plus aller dans des ressources de type ressources intermédiaires
okay.
ou CHSLD carrément. Puis ça, c'est toujours selon en fonction du nombre de soins d'heure par jour qui est requis pour la personne. Donc, il y a une grille d'évaluation qu'on fait dans laquelle on va coter la perte d'autonomie des personnes. Lorsqu'on parle d'un coût ici avec services, ou c'est avec des services, effectivement, qui ne sont pas extrêmes, mais qui demandent des besoins additionnels comparativement à une personne qui est, dans la plupart des cas, des résidences qu'on connaît ici, là, qui est autonome. Donc, à ce moment-là, aussitôt qu'il y a une prestation de service supplémentaire dans du déplacement, dans la distribution de médicaments, dans des suivis de prise de tension, dans des choses de façon plus régulière, des contrôles de comadins, exemple, bien, à ce moment-là, on va avoir des coûts qui sont beaucoup plus importants. Mais ce que ça démontre aussi aux gens, puis ça, c'est l'autre côté de la médaille, c'est que les gens prennent conscience maintenant comment est-ce que ça peut coûter au gouvernement également de tous les soins de santé. Bien, on le voit ce que ça peut coûter parce qu'actuellement, si on dit que ça coûte ça, dans une résidence avec des soins curatifs qui ne sont pas les plus lourds, bien, imaginons ce que c'est dans un CHSLD. C'est là qu'on voit que c'est vraiment très, très cher. Mais en CHSLD au Québec, la façon dont les gens, la fixation du coût des loyers, les gens qui rentrent là parce que ce n'est pas totalement gratuit, c'est fixé selon la base de revenus des gens.
Mais il y a un maximum. Dans un CHSLD, il y a un maximum.
Exactement, qui est fondé en fonction de la base de revenus des gens. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'on est mieux de demeurer en santé, c'est la bonne chose. Mais d'un autre côté, il y a des ressources maintenant qui sont là et le gouvernement va donner un coup de main pour les gens qui avaient plus de difficultés à avoir accès à ces milieux d'hébergement-là privés. Parce qu'en plus, à ne pas se tromper, là, on a une conjoncture démographique au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a fait qu'on a eu beaucoup de jeunes qui ont quitté la région. Ces jeunes-là étaient un réseau d'aidants naturels également pour des grands-parents qui sont plus près. C'est pas que les gens veulent se déresponsabiliser, mais le travail, tout ça, fait en sorte que maintenant, ils ont quitté la région. En ayant moins d'aidants naturels auprès des gens, bien, qu'est-ce que ça fait? Bien, ces gens-là vont se tourner vers des formules d'hébergement qu'on appelle des résidences privées. Mais encore, faut-il que ça les paie. Soient capables de se
Ben oui, c'est ça, tu sais. C'est une situation particulière qu'on vit. Mais en tout cas, il y a des pas en avant qui ont été faits de ce côté-là. Maintenant, on va parler de sorties-repas. Vous organisez des sorties-repas?
Ben oui, hein, sorties-repas. Puis les gens vont dire, ben, sorties-repas, est-ce que vous allez sortir ou vous ne sortirez pas? En fait, les sorties, traits d'union, repas, Ce qu'on fait, c'est en fait, on adapte toujours nos produits et nos services, Annick, en fonction des besoins de la clientèle. Et selon une dernière étude qu'on a fait avec Léger et Léger, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'aspect de la gastronomie est toujours très, très important chez les gens, particulièrement chez les 50-70 ans. Remarque, comme Québécois et comme gens de la région, on est des gens qui aiment bien manger habituellement,
oui.
Mais on voit que c'est encore quelque chose qui, sur l'intérêt qui est très, très fort. Et ce qu'on s'est aperçu également, c'est que nous, on a des gens, des fois, qui sont seuls, donc qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas l'occasion souvent d'aller au restaurant. On parlait tantôt de créer des contacts sociaux. Ça fait qu'on a décidé de se tourner vers des restaurants et vers un concept également de repas qu'on organise pour faire découvrir. Hein. Déjà, on a eu le cours de cuisine végétarienne là, qu'on a lancé avant les fêtes. Nous, on arrive avec ça, ces sorties repas-là, dont l'objectif est de faire découvrir, dans ce cas-ci, la cuisine indienne. Donc, en collaboration avec le restaurant Bengal à Chicoutimi, on organise une soirée dans laquelle on va faire découvrir la cuisine indienne. Là, les gens vont dire « oui, mais moi, je peux y aller n'importe quand au restaurant ». C'est vrai, mais dans ce cas-ci, on a un menu spécial qui va être concocté, on va avoir une rencontre avec les chefs. Il y a une plus-value par rapport au fait ou quand vous allez sortir de façon totalement indépendante. Et surtout, on va avoir une cohorte de gens de la FADOC, à l'intérieur duquel nous, on a structuré une activité, des choses spéciales qui va permettre aux gens de passer une belle soirée. Donc, cette première sortie-là va avoir lieu le 7 mars, de mémoire, le 9 mars.
Le 9 mars 2024, puis la date limite d'inscription, c'est le 25 février.
C'est ça, 25 février. Donc, le 9 mars, parce que je m'aide tout le temps, je n'arrêtais pas de dire le 6 mars, mais c'est le 9. Donc, le 9 mars, au restaurant Bengal à Chicoutimi, il est nécessaire de faire vos réservations parce qu'on a déjà des inscriptions qui sont entrées, puis on a un volume d'inscriptions qu'on peut prendre qui est assez limité. Puis il y a déjà d'autres choses qu'on annoncera éventuellement dans une prochaine chronique qui est en préparation pour le mois de mai prochain dans la formule gastronomie encore, mais avec un spectacle en plus cette soirée-là, ça va être au lac Saint-Jean. Donc, une nouvelle formule d'activité, on teste ça.
Bien, vous êtes extrêmement dynamique.
Bien, on essaie de faire des choses. Hein. Quand je te dis qu'il faut se coller aux besoins des gens, bien, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'innover, d'aller dans des sphères qui sont ailleurs, puis aussi ailleurs que dans les activités traditionnelles. Tu sais, notre réseau, il vit depuis 50 ans, oui, avec des activités traditionnelles de sacs de sable, de quilles, mais on a des
gens choses.
C'est ça, qui vont à vélo, puis là, on se tourne vers de nouvelles formes d'activité encore une fois pour faire en sorte d'adapter notre produit, hein, parce que, tu sais, la FADOC, c'est un peu comme un téléphone, c'est un téléphone intelligent. Si on ne fait pas de mise à jour, on va devenir obsolète. Donc, on doit toujours se maintenir à jour, puis c'est ce qu'on essaie de faire.
On continue notre chronique. On va parler de voitures électriques et d'un rabais sur les batteries, enfin les bornes de recharge résidentielles.
Bien oui, puis juste pour démontrer encore une fois comment la FADOC, on essaie toujours d'être au bout du jour. Il serait facile de négocier des rabais avec des firmes, plein de choses qui sont des fois reliées à la santé, mais à l'intérieur des produits qu'on a besoin dans notre quotidien, bien, plusieurs ont une voiture et plusieurs maintenant ont cette sensibilité-là écologique de se tourner vers des produits hybrides ou des voitures à assistance électrique. Donc, on a développé une collaboration avec Hydro Solutions pour un rabais qui est offert pour les gens qui vont faire l'installation de bornes de recharge résidentielles ou encore de la location. Alors, il y a un rabais qui est offert là, de 20 $ à l'achat ou encore un mois gratuit sur la location des différents modèles de bornes de recharge. Donc, les gens peuvent avoir l'information sur notre site Internet et également disponible là, sur le Facebook FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, et tout ça, ça rentre à l'intérieur de la panoplie de rabais, là, de plus de 3 000 rabais qui est offert au Québec. Donc, j'invite les gens qui vont s'acheter ou qui se sont achetés et qui ont à procéder à des adaptations à leur domicile, de consulter ce rabais-là sur nos plateformes.
Je me demandais, Patrice, si demain, c'était plein l'intermède FADOC en virtuel, là, la rencontre sur le régime canadien des soins dentaires.
Écoute, ça va être assez historique, Annick. On était rendu hier, je crois, à 300 tout près de 330 inscriptions. Le chiffre était 327 inscriptions, je crois. En virtuel, ça risque d'être la plus grosse conférence Intermed FADOC qu'on aura eu de notre histoire, mais ça démontre surtout la pertinence du sujet. Donc, pour nous, on est très content de pouvoir répondre à ce besoin-là. On se rappelle, le régime canadien d'assurance dentaire est en train de se mettre en place. Donc, il y a des gens qui ont commencé à recevoir des communications là-dessus. Beaucoup de gens ont des questions. Donc, demain, 14h, les gens peuvent s'inscrire encore sur notre fadoc.ca dans la section de l'Intermed FADOC. C'est une conférence en virtuel qui est gratuite, qui est à compter de 14h, qui se fait avec Mme Annie Ouellette de Service Canada, qui va donner toutes les informations pertinentes avec le régime canadien d'assurance dentaire. On parle des critères d'admissibilité, l'inscription, les services couverts, la couverture en fonction du revenu familial. Donc, on rappelle que les gens de 90 000 $ et moins sont admissibles au régime d'assurance dentaire.
Ça va être intéressant, puis c'est un dossier à suivre, ça, parce qu'il y a beaucoup de dentistes qui ne sont pas contents. Ils trouvent que... en tout cas, ils nous disent que ce ne sera pas totalement gratuit, là. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait au niveau fédéral.
Bien, écoute, on en a parlé également dans notre chronique. Dans une des chroniques, là, j'avais mentionné qu'on avait actuellement, on était la seule province au Canada qui n'avait pas signé encore l'entente avec le gouvernement canadien. C'est toujours le cas actuellement, okay. Même si le régime se met en place. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va se mettre en place. Je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui accepterait de ne pas avoir accès actuellement au régime qui est en train de se mettre en place. Par contre, tout ce qui est des juridictions fédérales, provinciales, des transferts aux provinces, on sait qu'il y a beaucoup de débats politiques là-dessus. Alors, sans rentrer dans le détail, on sait qu'actuellement, le gouvernement du Québec est en discussion avec le fédéral. Ça devrait se régler. Puis là-dessus, bien, il y a toute la pression également des médecins qui veulent trouver leur compte au travers de tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'appelés à la table. Ces gens-là vont trouver éventuellement un terrain d'entente. Mais ce qu'il faut retenir à la base, c'est que c'est un programme qui va permettre à des gens actuellement moins bien nantis d'avoir accès à un régime de couverture au niveau de leurs soins dentaires et surtout, ça va leur permettre d'améliorer leur qualité de vie, mais surtout d'avoir un incidence sur leur santé parce qu'on se rappelle qu'une bonne dentition nous permet de bien manger et bien manger, bien, ça nous maintient en bonne santé. Donc, éventuellement, le gouvernement du Québec risque d'économiser au niveau des coûts des médicaments.
Absolument. Merci beaucoup, Patrice. Je tiens à te souhaiter une belle Saint-Valentin pour demain.
À toi également. Toujours un plaisir. Bye-bye.
Bye-bye. Il est 11h26.